Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bon samedi. Il est 13h à Melbourne, c'est encore la nuit à Paris. Nous allons passer une heure ensemble. Je m'appelle Marianne Murat. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes samedi, le samedi 18 juin. Comme chaque samedi, c'est la rétrospective. Sans surprise, aujourd'hui, on va remonter le temps durant la guerre. On va remonter en 1940 pour vous faire revivre l'appel du 18 juin par le général de Gaulle. Mais d'abord, c'est l'heure du journal. À la une de l'actualité de ce samedi 18 juin, le gouvernement prévoit des coupes budgétaires plus sévères que prévues en prévision du budget présenté en octobre et accuse son prédécesseur d'en être responsable. La Commission européenne favorable à l'attribution d'un statut de candidat à l'Union européenne pour l'Ukraine. Vous entendrez les réactions du président Zelensky ainsi que celles plus surprenantes de Vladimir Poutine. Julian Assange va-t-il être extradé aux États-Unis ? Probablement, l'Australien fondateur de Wikileaks va en tout qu'à faire appel de cette décision du gouvernement britannique. Et enfin, la disparition d'un géant du cinéma français. L'acteur Jean-Louis Trintignant s'est éteint à l'âge de 91 ans. Retour sur sa vie, son œuvre à la fin de ce journal. Le nouveau gouvernement australien en prend ses marques et se prépare pour la présentation du budget d'ici 4 mois, ce sera en octobre. Après étude des comptes de l'État, eh bien, il se pourrait que des coupes budgétaires plus sévères que prévues soient annoncées. Le trésorier Jim Chalmers accuse l'ancien gouvernement Morrison de leur avoir légué des dépenses inutiles. Interrogé par nos confrères de Nine, Jason Clare, le ministre de l'Éducation, déclare qu'Anthony Albanese va tout faire pour respecter ses promesses électorales en termes d'économie, mais qu'il n'y aura pas d'autre choix que d'être impitoyable, on l'écoute.
Federal budget's in worse shape than most state budgets. And so what Jim's talking about there is one, we've got to make sure when we hand down this new budget in October that we implement the commitments we took to the election. But we've also got to go through it line by line, find the waste, find the rorts. He made the point today, find areas of duplication where you might have two departments doing the same thing. To make sure that we're getting bang for buck, make sure that taxpayers are getting value for money.
Les restrictions sanitaires contre le Covid-19 encore un peu plus allégées dans le Victoria cette fois. À compter de vendredi prochain 23h59, le port du masque ne sera plus obligatoire à l'intérieur des aéroports. Annonce faite par le ministre de la Santé victorien, Martin Follet. Le port du masque est toujours obligatoire dans les établissements de santé, les transports en commun, les taxis et durant le vol dans les avions. Autre évolution, les personnes testées positives doivent toujours s'isoler 7 jours, mais ont le droit désormais de sortir en voiture si elles restent à l'intérieur du véhicule pour conduire les enfants à l'école, par exemple. Le Premier ministre australien Anthony Albanese réitère sa promesse d'investir davantage dans les énergies renouvelables à l'avenir. Des paroles prononcées lors d'un forum des grandes économies mondiales organisé virtuellement par le président américain Joe Biden qui plaide pour une sécurité énergétique fiable et de long terme, je cite, à cause de l'attaque brutale et non provoquée de la Russie contre sa voisine l'Ukraine. Fin de citation. Lui n'était pas convié à ce sommet sur l'énergie et le climat, mais il organisait son propre sommet de son côté. Lui, c'est Vladimir Poutine. Lors de son discours au forum de Saint-Pétersbourg, une sorte de Davos russe, il a nié toute responsabilité dans la crise économique mondiale et en a profité pour fustiger l'Occident et ses sanctions. On écoute le président russe.
Je l'ai déjà dit, le blitzkrieg économique contre la Russie n'a jamais la moindre chance de succès. Dans le même temps, les armes que sont ces sanctions et la pratique de ces dernières années le montrent bien. Ils sont à double tranchant. Elles infligent des dommages comparables, voire plus importants à ceux qui les ont imaginés et mis en place. Et il ne s'agit pas seulement des conséquences évidentes d'aujourd'hui. Nous savons que parmi les dirigeants des pays européens, il y a des conversations informelles, au cours desquelles on discute de perspectives très inquiétantes, du fait que des sanctions peuvent être appliquées non seulement contre la Russie, mais aussi contre tout État devenu indésirable. Cela peut toucher tout le monde, y compris les membres de l'Union européenne eux-mêmes, y compris les entreprises européennes. Jusqu'à présent, ce n'est pas arrivé, mais en attendant, les responsables politiques européens ont déjà porté un coup sérieux à leur propre économie et ils l'ont fait de leurs propres mains. Nous constatons que les problèmes économiques et sociaux en Europe et aux États-Unis se sont aggravés, que le coût des biens, de la nourriture, de l'électricité et du carburant automobile augmente, que la qualité de vie des Européens baisse et que la compétitivité des entreprises diminue.
Vladimir Poutine, président russe. Et maintenant à Moscou, la correspondance d'Anissa El-Jabri pour Radio France Internationale.
Les sanctions occidentales, encore une fois, Vladimir Poutine les a qualifiées de folles et insensées. Et encore une fois, le président russe l'a en même temps assuré. Elles n'ont pas aujourd'hui et n'auront pas dans le futur de véritable impact sur l'état de l'économie du pays. Vladimir Poutine qui ne se juge ni responsable ni coupable des difficultés économiques mondiales, encore moins de l'inflation et surtout pas celle de l'énergie. Nous entendons tous parler d'une prétendue inflation de Poutine, a-t-il dit. Nos actions pour libérer le Donbass n'ont rien à voir avec ça. Fin de citation. Plutôt tout à voir, selon lui, avec les erreurs, je cite, systémiques de l'administration américaine et de la bureaucratie européenne. Un discours général sur l'orientation de la politique économique, engagement à revenir à une inflation à 4%, hausse de certains minima sociaux qui tranchaient avec ce tenu habituellement dans ce rendez-vous des investisseurs. Il faut dire que cette année, ils étaient beaucoup moins nombreux que d'habitude. Sanctions oblige. Certains hommes d'affaires avaient même explicitement demandé que leur nom ne figure pas sur le badge d'accès.
Vladimir Poutine qui a également réagi à la décision de la Commission européenne d'attribuer le statut de candidat à l'Union européenne à l'Ukraine. Pas de problème, dit-il, nous n'avons rien contre. C'est leur décision souveraine d'adhérer à des unions économiques ou pas. L'UE n'est pas une alliance militaire à la différence de l'OTAN. L'Ukraine avait demandé son adhésion fin février, quelques jours après le début de la guerre. On écoute la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, suivie du président ukrainien Volodymyr Zelensky.
In the view of the Commission, Ukraine has clearly demonstrated the country's aspiration and the country's determination to live up to European values and standards.
Ukrainians, defenders, now we are only one step away from fully-fledged integration into the EU. We have a positive assessment from the European Commission concerning candidate status for Ukraine, and it is a historic achievement for all who work for our country.
Voilà pour les réactions de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Alors, un statut de candidat ne signifie pas une adhésion prochaine, toutefois. Le processus est très long et il faut que les 27 votent à l'unanimité, ce qui est loin d'être garanti pour le moment. Avant de clore cette page largement consacrée aux dernières actualités concernant l'invasion russe, eh bien, on apprend que les autorités ukrainiennes ont mis en place un régime de visa pour les citoyens russes. C'est la première fois depuis 1991 et l'indépendance de l'Ukraine, que les citoyens russes ne peuvent plus s'y déplacer librement. Romain Lemaresquier, RFI.
Cela peut paraître surprenant, mais malgré le conflit qui oppose Ukrainiens et Russes depuis le 24 février dernier, les autorités ukrainiennes n'avaient toujours pas pris de mesures concernant l'entrée sur son territoire de citoyens russes. Mais désormais, à compter du 1er juillet, les Russes devront obtenir un visa pour se rendre en Ukraine, un pays avec lequel ils partagent près de 2300 km de frontières, une première dans l'histoire entre ces deux pays. L'objectif est de contrer les menaces sans précédent à la sécurité nationale, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale détaille le président ukrainien sur les réseaux sociaux. Si depuis le début de la pandémie de coronavirus, le nombre de Russes voyageant en Ukraine avait fortement chuté, auparavant, ils étaient plus de 1,5 million à franchir chaque année cette frontière. Il faut rappeler que de nombreuses familles russes et ukrainiennes ont des liens familiaux, ce qui explique ce chiffre. Est-ce que ce changement de traitement peut avoir une incidence pour les Russes exilés en Ukraine? Pour l'instant, les autorités ukrainiennes n'ont pas donné de précision, sachant que fin janvier 2022, avant le début du conflit, près de 175 000 Russes bénéficiaient d'un titre de séjour en Ukraine, parmi lesquels de nombreux exilés.
Dans le reste de l'actualité internationale, Londres a confirmé l'extradition de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks détenu depuis 3 ans dans une prison anglaise. L'Australien de 50 ans est poursuivi aux États-Unis pour avoir fait fuiter massivement des documents confidentiels. Ses avocats vont faire appel. On écoute l'un d'eux qui exhorte le gouvernement australien à agir.
This is an Australian citizen who faces over 170 years in jail. For revealing war crimes, and there's a great deal of this. Certainly, a number of Australians who take the view that this ought not to happen, including prominent journalists in this country. The Australian government can say to its close allies in London and Washington that it wants an end to a case which has gone on far too long.
Et quant à son épouse Stella, elle a laissé éclater sa colère. Écoutez.
Nous redoublons de détermination à chaque décision qui caricature la justice. Je n'ai pas les mots pour décrire ce que ça fait de voir les procédures britanniques instrumentalisées pour prolonger les souffrances de Julian encore et encore. Il devrait être libre, tout le monde le sait. Le Royaume-Uni ne devrait pas faire ça, ne devrait pas se laisser entraîner par un pays assoiffé de revanche. Julian n'a rien fait de mal. Il a fait ce que tout journaliste qui se respecte aurait fait en ayant connaissance de preuves de crimes d'État. Le devoir de Julian envers le public l'a fait atterrir en prison il y a plus de 3 ans.
C'est un privilège extraordinaire d'être acteur et de pouvoir rencontrer comme ça des gens formidables. Et en plus, d'être payé pour ça, c'est vraiment un cadeau. Un acteur, c'est pas du tout un créateur. Un acteur, c'est un instrument, quoi. On fait du cinéma sans acteur, on n'est pas arrivé à faire du théâtre sans acteur.
Vous l'avez sans doute reconnu par sa voix, cette voix si emblématique, mastodonte du 7e art. Jean-Louis Trintignant est décédé, l'acteur avait 91 ans. On revient sur sa vie semée de drames et sa carrière hors du commun.
On reconnaissait Jean-Louis Trintignant rien qu'à sa voix. Une voix enveloppante, voire magnétique, portée par une diction parfaite et allant de pair avec un regard perçant et mélancolique. Avec le succès planétaire en 1966 d'Un homme et une femme, Palme d'or à Cannes, Jean-Louis Trintignant, alors trentenaire, devient un comédien très demandé. À l'instar d'un Delon ou d'un Belmondo, il tournera dans quelques 120 longs-métrages. Mais c'est dans la composition de personnages ambigus, voire inquiétants, qu'il impose sa différence. Dans Le conformiste de Bernardo Bertolucci, il incarne un fasciste italien. Dans L'homme qui ment d'Alain Robbe-Grillet, un mystérieux étranger. À partir des années 80, cet anticonformiste privilégie le théâtre. Mais le meurtre de sa fille Marie, tuée en 2003 par Bertrand Cantat, l'éloigne des plateaux de cinéma. Jean-Louis Trintignant surprend en revenant devant la caméra de Michael Haneke pour Amour, dans lequel il joue un octogénaire confronté à l'agonie de sa femme. Le film remporte la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2012. Jean-Louis Trintignant tournera encore sous la direction d'Haneke, montera sur scène pour un spectacle de lecture de poèmes, jusqu'à son dernier rôle en 2019, Les plus belles années d'une vie, la suite d'Un homme et une femme, 53 ans après.
C'était un portrait signé Sophie Torlotin pour Radio France Internationale. Il est 13h et presque 14 minutes sur SBS French. Un point sur la météo de cet après-midi. Il y a des averses à Perth, comptées 18 degrés, du soleil à Adélaïde, 18 degrés également, des nuages à Melbourne, 15 degrés, 13 degrés à Hobart avec quelques éclaircies, nuageux à Canberra, 15 degrés, pareil à Sydney mais un petit peu plus chaud, 19 degrés, nuageux également à Brisbane, 23 degrés, 27 degrés à Cairns, et Darwin, du soleil et 33 degrés. Le rappel des titres, le gouvernement prévoit des coupes budgétaires plus sévères que prévues en prévision du budget présenté en octobre. Il accuse son prédécesseur d'en être responsable. La Commission européenne favorable à l'attribution d'un statut de candidat à l'Union européenne pour l'Ukraine. Le gouvernement britannique annonce l'extradition de Julian Assange aux États-Unis. Ses avocats vont faire appel. Et enfin, la disparition d'un géant du cinéma français. Jean-Louis Trintignant s'est éteint à l'âge de 91 ans.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, et comme chaque samedi, c'est l'heure de la rétrospective. Sans surprise, on remonte le temps à l'année 1940 et le plus célèbre des discours, l'appel du général de Gaulle.
Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french.
Nous sommes le 18 juin et comme chaque samedi, c'est l'heure de notre rétrospective. Aujourd'hui, nous revenons en 1940 durant la Seconde Guerre mondiale. Le 18 juin, depuis les studios de la BBC à Londres, en Angleterre, le général de Gaulle appelle les Français à résister face à l'occupation allemande. Retour sur l'un des discours les plus célèbres de l'histoire de France avec Léo Roussel, ainsi que des archives sonores de l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA, et de France Télévisions.
L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie, commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront.
Détrompez-vous, ce que vous venez d'entendre n'est pas l'appel du 18 juin lancé depuis les ondes britanniques par le général de Gaulle en 1940. Et pour cause, celui-ci n'a jamais été enregistré, et à vrai dire, il aurait même été assez peu entendu en France. Ce que vous venez d'entendre, en revanche, c'est le troisième appel de Charles de Gaulle, lancé le 22 juin, 4 jours plus tard donc, toujours depuis les studios de la BBC à Londres, au Royaume-Uni. Un discours de la même trempe, très semblable même, mais qui voit le général utiliser pour la première fois les termes de France libre. Mais si on parle autant du premier discours, celui du 18 juin, c'est parce que c'est lui qui lance officiellement l'appel à la résistance française face à l'invasion allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors pour remettre dans le contexte, en mai 1940, les forces du Troisième Reich envahissent la France, dont les armées, bien qu'aidées par les Britanniques, ne parviennent pas à résister. La France perd du terrain, de nombreux hommes et les chars allemands prennent rapidement le nord de la France et Paris, la capitale, où ils défilent dès le 14 juin. Dans les jours qui suivent, le maréchal Pétain, héros de la Première Guerre mondiale en France, est nommé président du Conseil des ministres après la démission de Paul Reynaud et il veut l'armistice. Le 17 juin, à la radio, il prononce un discours en faveur de celui-ci, appelant à cesser les combats et à se soumettre aux exigences des nazis. Le général de Gaulle, sous-secrétaire d'État à la guerre, refuse cette option et va alors s'exiler à Londres, en Angleterre. Et il va agir dès le lendemain, le 18 juin, comme l'explique ce documentaire diffusé sur Antenne 2 en 1990, pour commémorer les 50 ans de l'appel.
Un général français, le général de Gaulle, sous-secrétaire d'État à la Défense dans le gouvernement de Paul Reynaud, est arrivé dans la capitale britannique. Il est seul, il n'a ni troupes, ni structure politique, ni force économique. Il possède en tout et pour tout une somme de 100 000 francs que lui a remise Paul Reynaud et la clé d'un petit appartement à Seymour Place dans le centre de Londres. Dès son arrivée, il a rencontré Churchill et lui a demandé de pouvoir utiliser la BBC pour lancer un appel aux Français.
Cet appel, le général de Gaulle le rédige depuis son petit appartement et il le prononce à 18h30 le 18 juin au cœur des studios de la BBC. L'appel est diffusé sur les ondes jusqu'en France, mais on l'a dit, il est d'abord peu entendu. Mais dans les jours suivants, le général prend de nouveau la parole à la radio, la presse britannique relaie l'appel, ainsi que certains journaux français. Durant l'été, quelques milliers d'hommes répondent à l'appel et rejoignent Londres clandestinement. De Gaulle est reconnu chef des Français libres par le Premier ministre britannique Winston Churchill. Il crée les forces françaises libres, en partie constituées de soldats de l'Empire colonial, pour poursuivre la lutte aux côtés des alliés. En France, l'armistice a bien été signé le 22 juin et le territoire est divisé en deux, une zone occupée par les nazis et une autre zone dite libre, gouvernée par le régime de Vichy. Le maréchal Pétain devient le chef de l'État français et collabore avec l'Allemagne nazie. De Gaulle est alors vu comme une menace, un traître, et il est même condamné à mort en août 1940. Sauf que suite à son appel, un réseau de résistance se met en place pour poursuivre la lutte armée pendant l'occupation sur le territoire français jusqu'en 1944 et au débarquement des Alliés. Là encore, la BBC joue un rôle majeur, diffusant les informations du monde libre et les messages codés permettant aux résistants de communiquer entre eux. C'est d'ailleurs par le biais de Radio Londres, le programme en français de la BBC, que sera annoncé le débarquement des Alliés en juin 1944, avec ce message bien connu.
Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone.
Deux vers de Paul Verlaine qui marquent le début de la contre-offensive des Alliés qui va conduire à la libération de la France. Si l'appel du 18 juin 1940 est aussi célèbre, c'est parce qu'il symbolise à lui seul le refus d'un homme, le général de Gaulle, à se soumettre au nazisme et à accepter l'armistice. Un refus et un appel à résister qui s'est propagé et qui a progressivement conduit à la libération de la France.
Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french.
J-3 avant la fête de la musique en France, partout, mais aussi dans le monde. Cet événement créé en 1982 par Jack Lang, alors ministre de la Culture, s'est depuis exporté dans 120 pays, dont l'Australie. On en parle après une très courte pause.
Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill. Sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone. sbs.com.au/chill.
La fête de la musique approche, hein, c'est le 21 juin prochain et cette année marque un anniversaire de taille puisque ce sont les 40 ans de l'événement. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Karine Maurice, attachée culturelle et audiovisuelle à l'ambassade de France en Australie. Karine, bonjour.
Bonjour Marianne.
Karine, d'abord, parlez-nous des festivités qui vont être organisées en Australie la journée du 21 juin.
L'ambassade de France s'est mobilisée avec le consulat pour essayer de faire venir dans des lieux un peu incongrus, on va dire, des jeunes groupes, des jeunes talents, leur donner la chance de toucher un autre public. Donc on est allé voir des écoles, on est allé voir par exemple Rose Bay à Sydney, et il y a des groupes, il y a des chorales arabes qui vont venir chanter, des chanteurs lyriques et tout ça, tous ces groupes d'ensemble, on a 14 groupes qui vont jouer, qui sont soit amateurs, soit professionnels, et ils vont jouer dans 8 lieux différents. Le premier lieu, ça sera à partir de midi au Powerhouse à Ultimo. Donc là, on a deux jeunes groupes plutôt pop-rock qui vont jouer. Ensuite, au consulat de France, entre midi et demi et 14h, on a un chanteur lyrique, on a aussi un groupe un peu jazz-soul. Ensuite, on a le MCA, le musée d'art contemporain de Sydney, qui reçoit un ténor et une fanfare arabique. On a des jeunes groupes, donc des jeunes groupes du collège de Rose Bay qui vont jouer dans un bar en plein centre de Sydney. Et le dernier grand concert qu'on va avoir, ça sera au Phoenix. Donc le Phoenix, c'est un nouveau lieu qui a ouvert, un lieu avec un son, une acoustique extraordinaire. Et là, on a demandé à Chris Cody de venir jouer. Et donc Chris Cody, c'est un franco-australien, donc un compositeur franco-australien qui a écrit un très très beau, qui a fait un très bel album sur l'histoire de la Pérouse. Et donc il compte dans un album de jazz le chemin de la Pérouse jusqu'en Australie. Et donc, c'est teinté de tous les moments de ce périple, de cette caravelle. Donc, le jazz est teinté de musique africaine, de rencontres asiatiques, de sons un peu haute mer. Et donc, ce concert aura lieu en deux fois au Phoenix. Et on a aussi la Mossman Art Gallery qui fait venir un grand chœur arabe et andalouse pour un concert assez exceptionnel à 19h30. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site de Creative New South Wales. Le gouvernement de New South Wales a créé un site qui s'appelle Make Music Day. Et dedans, on peut retrouver ce que nous, on a proposé, mais aussi plein d'autres initiatives. Parce que cette fête, c'est une fête populaire. L'idée aussi, c'est que tout amateur peut s'inscrire et peut proposer de jouer n'importe où dans Sydney et aussi à Canberra. On a l'ambassade de France qui soutient un projet dans un lieu qui s'appelle Ondine.
Alors justement, vous parlez d'amateurs. Bon, Chris Cody, il est assez célèbre, tout du moins ici en Australie. On est d'accord que l'objectif de la fête de la musique, c'est plutôt de mettre en lumière des groupes locaux, des artistes émergents qui sont normalement dans l'ombre d'artistes, disons, plus célèbres.
En fait, l'idée de la fête de la musique, c'est vraiment une grande fête populaire gratuite. Donc l'idée, c'est de proposer tous les artistes peuvent jouer où ils veulent, comme ils veulent, gratuitement pour un public, que ce soit des amateurs, mais aussi des professionnels. Le concert de Chris Cody, c'est un petit peu comme il y avait cette idée de lien entre la France et l'Australie. C'est un concert qui est monté avec le lieu privé du Phoenix. Les autres concerts, c'est vraiment spontané et c'est des lieux comme des musées qui nous ont dit « Ok, nous, on ouvre nos espaces » à des jeunes groupes et on est ravis de les recevoir. Donc nous, on avait fait une sorte d'appel à projet. On a proposé à chacun des lieux de choisir les groupes qui leur plaisaient le plus et qu'ils avaient envie de mettre en avant. C'est un sacré coup de pouce pour ces jeunes groupes. Et puis, en discutant avec eux, ils me disaient que c'était, par exemple, pour la chorale, que pour eux, c'est assez génial de pouvoir créer maintenant, de pouvoir retrouver un peu du public parce qu'avec toutes ces périodes un peu tristes qu'on a eues ces derniers mois, créer quelque chose un peu de spontané et de dans tous les genres et dans des lieux atypiques, ça leur donnait le sourire et ça leur faisait hyper plaisir de le faire. Et c'est vrai que cette fête, c'est une fête de partage, de plaisir. C'est pour ça qu'elle marche si fort en France. Et c'est comme ça, dès le départ, il y a 40 ans, quand elle a été créée, qu'elle a commencé à émerger avec cette volonté de musique vivante, de rencontre, de diversité. Et d'expressions musicales diverses.
Justement, il y a 40 ans, en 1982, cette fête de la musique a été créée par le ministre de la Culture de l'époque, Jack Lang. Jack Lang, que vous avez contacté et qui a un petit mot à dire aux Australiens. On l'écoute.
Bonjour, chers amis de l'Australie. Merci d'être présents à l'autre bout de la terre pour nous, Français. Et j'aimerais tellement être avec vous dans ce beau pays qui est le vôtre. J'aimerais tellement ressentir avec vous ces moments de festivité, de bonheur et de rencontre. En tout cas, je vous adresse mes voeux très chaleureux. Vous fêterez la musique avant nous, quelques heures avant nous, et nous serons inspirés par votre exemple pour faire que la 40e édition de la fête de la musique soit la plus belle, la plus brillante, la plus drôle, la plus sympathique et la plus chaleureuse. Merci et j'espère un jour en Australie.
Karine, la fête de la musique, c'est une fête française. En quoi est-ce qu'elle a une importance ici en Australie?
Quand j'ai rencontré les équipes de Creative New South Wales, c'est eux qui m'ont dit « Oh, ça fait plusieurs années qu'on essaie de développer la fête de la musique ». Ce qui est assez formidable en Australie, c'est que dès le lycée, les élèves peuvent faire de la musique. Il y a vraiment, je trouve, un système éducatif qui est très réussi là-dessus, où tout élève peut rentrer dans une chorale, tout élève peut prendre même musique au bac, à leur épreuve finale. Je pense que c'est quelque chose qui peut très bien marcher ici. Le seul souci, ce qui est toujours un petit peu difficile, c'est de leur faire comprendre que oui, on peut laisser les rues ouvertes et les gens peuvent aller jouer dans la rue, que c'est pas dangereux et que si c'est bien organisé, ça se passe bien. Nous, quand ça a été créé il y a 40 ans, ça a été quelque chose de très spontané. Les gens, à l'appel de Jack Lang, les gens sont allés dans la rue. Ça a tout de suite été des centaines de milliers de personnes dans toute la France qui ont accepté de jouer et d'aller à l'encontre d'un public différent. Et donc ici, je pense qu'il y a tout pour que ça marche bien. Le seul petit truc, c'est qu'il fait froid quand même, c'est le 21 juin. Autant en France, c'est le jour le plus long et un des jours les plus chauds. Et ici, c'est plutôt le jour le plus court et on est en plein cœur de l'hiver. Donc, il faut s'adapter à ça, il faut s'adapter à toutes ces contraintes. Mais par contre, je pense que c'est une grande manifestation populaire qui permet vraiment des moments de partage et d'expression assez incroyables. On la voit que ça marche partout dans le monde parce qu'il y a 120 fêtes de la musique à travers le monde. Il faut que tout le monde s'y mette, il faut que ça devienne vraiment cet événement festif et de rencontre tel qu'on le voit en France.
Oui, c'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir des concerts organisés toute la journée ici en Australie. Comme vous l'avez dit, il fait froid et les journées sont assez courtes. La fête de la musique, 40 ans de célébration, c'est donc le jour officiel mardi 21 juin. Karine Maurice, vous êtes l'attachée culturelle à l'ambassade de France en Australie. Merci beaucoup pour votre temps.
Merci à vous. Et puis s'il vous plaît, allez, venez soutenir ces jeunes groupes et venez faire de cette journée une fête et qu'elle prenne l'ampleur telle qu'on la connaît en France. Moi, j'adore cette journée, j'adore la fête de la musique. Et c'est vrai qu'en France, c'est des balades musicales assez inouïes, assez incomparables. Donc, merci en tout cas à SBS de votre soutien.
À bientôt.
À bientôt.
Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill. Sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone. sbs.com.au/chill.
Il est 13h56 sur Radio SBS, SBS French. C'est l'heure du rappel des titres. Le gouvernement prévoit des coupes budgétaires plus sévères que prévues en prévision du budget présenté en octobre et accuse son prédécesseur d'en être responsable. La Commission européenne favorable à l'attribution d'un statut de candidat à l'Union européenne pour l'Ukraine. Le gouvernement britannique annonce l'extradition de Julian Assange aux États-Unis. Les avocats de l'Australien fondateur de Wikileaks vont faire appel. Et enfin, la disparition d'un géant du cinéma français. L'acteur Jean-Louis Trintignant s'est éteint à l'âge de 91 ans. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre programme en français SBS French que vous avez écouté sur Radio SBS. Je vous remercie d'avoir passé cette heure avec moi. Comme d'habitude, j'ai été très heureuse de vous présenter cette émission pendant une heure. Vous pouvez la retrouver soit en intégralité, soit seulement quelques chroniques, le journal, sur notre site internet sbs.com.au/french, sur notre page Facebook SBS French, sur Spotify ou toutes vos plateformes de podcast préférées. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain avec le journaliste et collègue Jean-Noël Ducasse. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain. Il est 13h58. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous laisse sur cette magnifique chanson de Starmania, Stone, le monde est stone. Au revoir.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.